Chapitre 11. Sauvetage. Plongé brusquement dans l'eau, je cherchais à remonter au plus vite à la surface, car je n'avais pas pris le temps de prendre de l'air. Mais un grand remous me secoua en tous sens, et j'entendis un bruit énorme passer à côté de mes oreilles, accompagné d'un craquement sinistre. Rapidement, le bruit décrut, les remous se calmèrent, et je pus enfin remonter à la surface, reprendre ma respiration. Il était temps, j'étais complètement hors d'haleine. J'entendis le bruit des moteurs qui s'éloignaient très vite. Le yacht, tout feu éteint, avait déjà disparu dans l'obscurité. Tout de suite, je vis apparaître la tête de Stéphane à côté de moi. « Ça va, tu n'as rien ?» me demanda-t-il. « Non, ils sont complètement fous. Et toi, ça va ?»« Oui, on a sauté à temps. » Je me débarrassai de mon ciré qui me gênait beaucoup pour nager. Des débris du canot disloqué surnageaient autour de nous. « Ton pauvre canot, il n'en reste rien. »« Tant pis, nous sommes vivants et entiers, c'est l'essentiel. » Stéphane s'éloigna quelques secondes pour récupérer un objet cylindrique blanc. Il me le rapporta. « C'est un des deux parabattages du canot. » « Appuie-toi dessus, je vais essayer de retrouver l'autre et nous servirons de bouée de sauvetage. » Après quelques minutes de recherche, il revint, couché sur un autre cylindre de plastique blanc. « Fais comme moi, couche-toi dessus. La position n'est pas très stable, mais ça permet de flotter sans faire de mouvement, c'est reposant. Et vu les kilomètres qu'il va nous falloir nager... »« Il va falloir nager jusqu'à Porquerolles ?» demandai-je, découragé d'avance à l'idée de la distance à parcourir. « Est-ce seulement possible ?»« Si on croise un bateau, on lui demandera de nous prendre en stop. Mais on a de la chance, l'eau est bonne, elle doit faire plus de 20 degrés. La mer est belle, presque d'huile, c'est l'idéal pour nager. Et puis le ciel est dégagé, la lune va se lever et on voit parfaitement le phare de Porquerolles. Regarde, un éclat toutes les 10 secondes. Il va nous guider. » « Donc, tout va bien ?»« Tout va bien. Il y a juste que la distance est un peu longue. Une dizaine de milles, c'est-à-dire 18 kilomètres environ. Mais comme on dispose des parbattages pour nous soutenir et nous reposer, on fera des pauses. »« Alors, si tout va bien, allons-y. »« Attends, je pense à quelque chose. Tu as toujours ton portable ?»« Oui, dans la poche de mon short. » »« Ce serait étonnant qu'il ait résisté à l'eau. » Mais on peut toujours essayer. Avec un peu de peine, je réussis à sortir de ma poche le téléphone portable d'Yvette, tout ruisselant. Mais comme je m'y attendais, il n'avait pas apprécié son bain-de-mer forcé et ne s'allumait même plus. Je me débarrassai de mes chaussures et Stéphane quitta non sans mal sa veste qui le gênait. Enfin, il fit un nœud pour relier les cordelettes des deux parabattages. Ainsi, nous ne risquions pas de nous éloigner l'un de l'autre. Alors nous nous mîmes en route, nageant lentement pour économiser nos forces. Nous nagions tranquillement dans l'eau noire, en direction du phare qui semblait nous appeler, nous adressant systématiquement un clin d'œil toutes les 10 secondes. La lune se leva assez vite, semant devant elle 1000 reflets d'argent pour nous ravir les yeux et nous distraire de la gravité de notre situation. Stéphane avait raison. Malgré notre mauvaise posture, les conditions de notre sauvetage étaient toutes au mieux. Impossible de rêver une mer plus douce, plus calme, un ciel plus dégagé. Notre véritable ennemi était le temps. Il allait nous en falloir de la persévérance, des heures et des heures à nager pour rejoindre la terre ferme. Si seulement un bateau pouvait nous repérer... Stéphane avait une montre étanche. Il proposa de prévoir une pause toutes les demi-heures, de façon à instaurer un rythme régulier dans l'effort, indépendant des baisses probables du moral. La proposition fut acceptée à l'unanimité. Ainsi, régulièrement, nous prenions un petit temps de repos en restant couchés sur les parbattages que nous nous bénissions d'avoir récupérés. Nous avions beau nager lentement, ces petits temps de pause nous faisaient un bien fou. Les muscles se détendaient, la respiration se calmait, et nous pouvions en profiter pour échanger quelques paroles, ce qui était plus difficile en nageant. Pendant plus de 2 heures, malgré une soif grandissante, le moral fut excellent. Mais lors de la 4e ou 5e pause, je sentis des frissons et me rendis compte que bien qu'ayant refusé de me l'avouer jusque-là, J'étais bel et bien en train de me refroidir sérieusement. Je compris que je m'étais trompé. Notre véritable ennemi n'était pas le temps, car nous pouvions toujours ralentir notre rythme de nage et augmenter la fréquence des pauses. Non, ce qui risquait de nous perdre, c'était le froid. Même si l'eau nous paraissait bonne au début, nos corps à 37 degrés finissaient par se refroidir malgré l'effort physique continu. D'abord, je n'osais pas en parler à Stéphane, qui, peut-être, ne sentait pas ce froid le pénétrer. C'est bien connu, les hommes ont toujours chaud. Mais surtout, je ne voulais pas risquer de lui casser le moral. Pour me donner du courage, j'essayais d'estimer notre progression. Derrière nous, tout était noir, aucun point de repère, à part de temps en temps les lumières d'un cargo ou un ferry qui passait au large. En regardant attentivement vers le phare, je cherchais à me rendre compte s'il avait grossi. Mais non, il restait tout à fait fidèle à lui-même, immuable, régulier, toujours aussi lointain. Stéphane me donna le signal de reprendre la nage. Je repris ma position et me remis en route, mais je commençais à ne plus y croire. Je sentis que mes muscles fatigués devenaient douloureux, que j'avais soif, que j'avais faim. Nous n'avions bien sûr absolument rien à boire, rien à manger. Je pensais aussi à la crampe qui nous guettait et ne manquerait pas d'arriver avec ce froid. Je faillis la faire venir à force d'y penser. Par un gros effort mental, je réussis à mettre de côté cette appréhension de la crampe en me concentrant sur la soif, ce qui était moins risqué. L'eau salée coulait sans arrêt sur mes lèvres. Le peu de sel qui pénétrait dans ma bouche et sur ma langue les desséchait. À force d'y penser, j'avais de plus en plus soif. Cette soif m'occupa l'esprit jusqu'à la pause suivante. J'observais le phare au loin et cette fois, je ne pus m'empêcher de dire à Stéphane « Tu es sûr qu'on se rapproche ?» Il ne répondit pas tout de suite, ce qui me fit croire qu'il cherchait lui-même à se rassurer et qu'il voulait m'adresser une parole qui me redonne courage. « Bien sûr qu'on se rapproche. Tu sais, c'est normal de ne pas se rendre compte au début. En bateau, ça fait le même effet. Mais tu verras, quand nous serons plus près, nous verrons le phare se rapprocher beaucoup plus vite. Allez, on repart ?» Je ne fus pas du tout convaincue par cette explication farfelue. La pause me parut plus courte qu'à l'ordinaire. Peut-être Stéphane avait-il froid lui aussi. J'eus plus de mal à remettre en marche mes muscles qui s'engourdissaient de plus en plus. Je commençais à penser que nos chances d'arriver jusqu'à la terre ferme étaient vraiment faibles. Curieusement, je n'avais pas peur et la pensée de m'endormir, fût-ce dans la mort, commençait à me tenter. Je continuais à nager, mais mes mouvements avaient beaucoup perdu de leur vigueur et de leur efficacité. Plusieurs fois, la cordelette qui reliait nos deux flotteurs se tendit. Stéphane, nageant toujours devant et à droite de moi, j'avais tendance à ralentir les mouvements et à me laisser prendre en remorque. Stéphane s'en rendit compte et s'arrêta. Il se retourna vers moi. « Tout va bien ?» J'aurais dû lui répondre comme les autres fois. « Pas de problème, je fatigue juste un peu. » Mais j'en avais assez, je me laissais aller. « Non, ça ne va plus. Je suis claqué, gelé, j'ai faim et super soif. J'ai les muscles tout engourdis et c'est à peine si j'arrive encore à nager. De toute façon, ça ne sert à rien, on n'avance pas. » Immédiatement, je regrettais d'avoir dit tout ça, de doucher les espoirs peut-être encore bien vivants de Stéphane. Mais c'était dit, je ne pouvais plus revenir en arrière. Il se rapprocha de moi, lâcha son pare-battage et vint s'appuyer sur le mien en face de moi. Il me prit les épaules, les serra très fort et vint mettre sa joue contre la mienne. Je sentis un peu de sa chaleur et cela me fit du bien. « Ma pauvre Emmanuelle, jamais je n'aurais dû t'emmener ici. »« Mais c'est moi qui me suis imposée, tu n'y es pour rien, tu ne te rappelles pas ?» Un capitaine, même s'il navigue dans un tout petit canot comme le mien, est toujours le seul responsable de son navire, de son équipage et de ses passagers. Tout ça, c'est du blabla. On est tous les deux là, en pleine mer, à bout de force, et on cherche à sauver notre peau, c'est tout. Si on veut sauver notre peau, il faut nager, nous rapprocher de la terre, c'est là que nous aurons le plus de chances de croiser un bateau. Un bateau? Où vois-tu des bateaux? Nous sommes tous seuls, mon pauvre Stéphane. En plus, nous n'avançons pratiquement pas, sans doute un courant nous repousse vers le large. Il n'y a pas de courant ici. Je t'assure que nous avançons. Je pense même que nous avons dû faire la moitié du chemin. »
La moitié du chemin ? Enfin, si tu veux. Mais moi, je suis au bout du rouleau. Ne crois pas que j'aurai la force de faire l'autre moitié. Pas dans ces conditions, en tout cas. C'est impossible. »
Stéphane redressa la tête et vint appuyer son front sur le mien. Je sentis son souffle sur mon visage. Je devinais ses yeux qui brillaient à 10 centimètres des miens, qui tentaient de me communiquer tout ce qui leur restait de volonté et d'énergie.
« Il le faut, Emmanuel, il le faut !»
Je ressentais très fort cette force qu'il essayait de me communiquer. Le parbattage séparait nos corps, mais je sentis ses lèvres à portée des miennes, et tout à coup, j'eus envie de m'abandonner complètement dans ses bras. Un irrésistible désir me saisit, et sans répondre à sa question, j'approchai lentement mes lèvres des siennes. Il ne bougea pas. Nos lèvres s'unirent doucement et je sentis pénétrer en moi toute la force qu'il voulait me transmettre. C'était tellement bon. Ce fut lui qui recula le premier.
« Il faut y aller, Emmanuel. »«
Merci, dis-je, c'était trop bon. »«
Tu es prête à repartir ?»«
Je suis prête. »«
Alors, on y va. »«
Attends. »
« Quoi ?
À chaque pause, tu pourras me redonner de ta force comme ça ? Ça me fait tellement du bien !»
Malgré le tragique de notre situation, Stéphane se mit à rire en tirant sur la cordelette pour récupérer et remonter sur son parbattage.
« Moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi aussi, j'ai besoin de toi pour continuer. Alors accroche-toi et suis-moi si tu veux d'autres baisers. »
Nous nous remîmes à nager vers le phare.
Je sentais couler une nouvelle énergie dans mes veines. Mon corps restait lourd et froid, mais ma volonté récemment dopée en reprenait le contrôle et le forçait à réagir, à m'obéir. Physiquement, ce fut très dur, mais j'avais dans le cœur un feu qui me réchauffait et me donnait l'énergie qui manquait à mon corps épuisé. En avançant, je pensais, je rêvais à la prochaine pause, au prochain baiser, que j'espérais et qui n'allait plus tarder. De fait, les pauses devinrent de plus en plus fréquentes, toutes les 10 minutes peut-être. Nous perdîmes la notion du temps. Nous n'étions plus capables de soutenir un effort prolongé et nous avions de plus en plus besoin de nous étreindre. À ce point, il était évident que nous n'avions plus aucune chance de rejoindre Porquerolles par nos propres moyens. Mais si j'en avais une certaine conscience, elle était passée au second plan. L'éblouissement provoqué par la révélation de mon amour pour Stéphane, mêlé à une fatigue extrême, avait provoqué une sorte de folie qui me rendait inconsciente de la réalité de notre situation. Il y avait peut-être 1 heure que nous progressions comme ça, et nous étions de nouveau enlacés, quand, relevant la tête, je vis un feu rouge qui semblait progresser vers nous. Cela me semblait un mirage, et ce n'est qu'après plusieurs secondes que je finis par comprendre ce qui se passait. Je prononçai «
Stéphane, regarde, un bateau !»
L'esprit plus vif que le mien, il se retourna immédiatement.
« Mais oui, un bateau, il vient presque droit sur nous. On n'entend pas de moteur, si c'est un voilier et s'il marche à la voile, il a plus de chances de nous entendre. Il faut absolument signaler notre présence. »
« On va crier !»
« Oui, bien sûr. Mais s'il passe un peu loin, ce ne sera peut-être pas suffisant. » Il faudrait quelque chose de plus frappant, une lumière.
Alors c'est cuit, la torche étanche est au fond de l'eau.
Tu as toujours ton appareil photo ?
Oui, je l'ai gardé parce qu'il contient les photos du bateau qui nous a coulé. Ceux qui retrouveront nos corps pourront peut-être identifier ce bateau.
Ce n'est pas le moment de faire des réflexions morbides. L'appareil photo, tu crois qu'il marche encore ?
Je le pense, il est resté dans sa pochette étanche. Il n'y a pas de raison qu'il ait pris l'eau.
Alors il faut nous signaler en déclenchant le flash.
Super idée, mais il faudra le réactiver, le flash, quand tu m'avais bien recommandé de le couper quand j'ai photographié le yacht.
C'est vrai, mais c'est juste un bouton à tourner.
Oui, un tout petit. Je vais essayer, mais dans le noir, avec les mains gelées et tremblantes, et à travers le sac étanche, ça ne va pas être évident.
Je cherchais le petit bouton à tourner du bout des doigts. Mais ils avaient beaucoup perdu de leur sensibilité. Si, avec beaucoup de mal, j'arrivais à repérer une petite bosse qui devait être le fameux bouton, comment faire pour le tourner? Avais-je réussi à le tourner? D'un cran, de deux, de trois? Impossible de me rendre compte. Chaque fois, j'appuyais sur le déclencheur, chaque fois une photo se prenait, mais jamais le flash ne s'éclairait. Le voilier était maintenant tout proche. Il allait passer à 50 ou 100 mètres de nous sans nous voir. Nous avions beau crier, il y avait très peu de chances qu'il nous entende, et nous étions en train de laisser filer notre seule chance de survie. Tandis que, bêtement, je regardais passer le bateau, un peu comme les vaches regardent passer les trains, car je ne voyais pas ce que je pouvais faire de mieux, je sentis Stéphane s'agiter dans l'eau à côté de moi. Je me tournai vers lui et vis qu'à la suite de je ne sais quelle gymnastique, il avait réussi à s'asseoir à cheval sur son pare-battage. « Tiens-moi les jambes et passe-moi l'appareil photo. » J'obéis. Je me cramponnais à ses jambes pour lui éviter de perdre l'équilibre et lui tendis l'appareil. Il arracha vivement le sac étanche qu'il jeta à la mer et tenta de tourner le bouton sélecteur du flash. Il fit plusieurs essais sans résultat, mais tout à coup, le miracle se produisit. Le flash illumina le voilier alors qu'il venait de nous dépasser. Stéphane recommença 3 ou 4 fois. Le bateau continuait tranquillement sa route, rien ne permettait de penser qu'il avait aperçu notre signal. Un mélange d'espoir et d'angoisse me tordait le ventre. Enfin, le faisceau lumineux d'une grosse lampe torche s'alluma à bord. Il balaya la mer à notre droite. Stéphane tentait de déclencher à nouveau le flash, mais la batterie était fatiguée et rien ne se produisit. Enfin, la lumière de la grosse lampe nous aveugla et, pensant être juste dans le faisceau lumineux, nous agitâmes les bras en hurlant. Aussitôt, le voilier, qui déjà s'éloignait, mit en panne et, de loin, nous aperçûmes une grande agitation à bord. La voile d'avant fut enroulée, la grand-voile bordée et nous entendîmes le moteur démarrer. Enfin, au bout de plusieurs minutes, s'étant déjà bien éloigné, il fit demi-tour et revint vers nous. La lampe torche se remit à balayer la mer, mais beaucoup trop à gauche. Le voilier revenait lentement, mais il allait passer beaucoup trop loin de nous. Je me mis à nager dans ce sens pour nous rapprocher de sa route en remorquant Stéphane, toujours à cheval sur son pare-battage. Mais le voilier avançait beaucoup plus vite que nous et allait nous dépasser une nouvelle fois sans nous avoir repérés. Il fallait absolument indiquer de nouveau notre position. Je ne pourrai jamais oublier ces minutes terribles où la rage de vivre combattait en moi une résignation qui déjà s'était installée. Je comprenais trop bien que ce voilier était notre unique espoir. S'il passait sans nous voir, nous étions perdus. Jamais nous n'aurions la force de rejoindre la côte par nos propres moyens et jamais nous n'aurions la chance de croiser un autre bateau. Enfin, Stéphane, qui s'acharnait sur l'appareil, réussit à déclencher le flash une nouvelle fois. Immédiatement, la lampe torche pivota et se dirigea sur nous. Le voilier, qui déjà nous avait dépassés, vira de nouveau et revint sur nous. Nous étions sauvés. La suite est assez floue dans mon souvenir. Un jeune couple naviguait sur ce voilier. Un grand costaud et une jeune femme nous hissèrent non sans mal à leur bord. La femme nous fit boire quelque chose de bouillant, nous aida à nous déshabiller et à nous sécher pour nous mettre dans des duvets bien chauds. La dernière étape de notre sauvetage est plus floue encore. Je vois vaguement un port, sans doute celui de Porquerolles, des mâts de voiliers illuminés par des gyrophares bleus, puis le vrombissement et le souffle puissant d'un hélicoptère, puis plus rien. Je repris connaissance dans une chambre d'hôpital. La lumière crue des tubes fluorescents m'éblouissait, mais je distinguais le sourire de mes parents qui se tenaient côte à côte, penchés sur moi. Tout de suite, je demandai « Et Stéphane ?»« Ne t'inquiète pas, » répondit maman. « Stéphane va bien, il est dans une autre chambre un peu plus loin. » Je refermai les yeux et me rendormis instantanément. Nous souffrions d'épuisement et d'hypothermie. Mais nous n'avions rien de grave. Il fallait surtout nous reposer et refaire nos forces. Quand le lendemain matin, je commençais à aller mieux et me réveillais tout à fait, mon père m'interrogea. Je lui racontai tout ce qui nous était arrivé et lui demandai s'il avait récupéré l'appareil photo que nous avions sur nous et dont le flash nous avait sauvé la vie. Le jeune couple qui nous avait repêchés en pleine mer avait déclenché les secours par radio, puis nous avait conduits au port de Porquerolles. Il avait remis au sauveteur l'ensemble de nos affaires. « Je voudrais bien garder cet appareil photo, dis-je. Il a pris l'eau de mer, car Stéphane ne s'en est plus soucié quand le voilier est venu nous récupérer, et il y a peu de chances qu'il soit encore utilisable. Mais c'est un souvenir et j'y tiens. Et surtout, la carte mémoire est peut-être encore lisible, et elle contient des photos du bateau qui nous a volontairement coulé. Avec ces photos, la police italienne devrait pouvoir le retrouver. « Excellente idée, répondit papa. Je m'occupe immédiatement de récupérer cet appareil et les photos qu'il contient et d'en faire le meilleur usage. Puis il va falloir que ce Jean-Claude Martin s'explique. » Maman resta pour me tenir compagnie. Un peu plus tard, j'eus la visite de mes deux amies, Amélie et Ursula. « Qu'est-ce que tu nous as fait peur ? » s'exclama Amélie. « Vous savez, moi aussi je me suis fait peur. Plusieurs fois, j'ai cru que c'était fichu et que je ne vous reverrai jamais. » « Tu sais, on a vu revenir Jean-Claude Martin. Son bateau à peine amarré, il a filé vers sa voiture et il est parti sur les chapeaux de roue. On s'est douté qu'il avait dû se passer quelque chose. On a essayé au moins 100 fois de vous joindre au téléphone, on tombait toujours sur ce satané répondeur. On a fini par rentrer chez Stéphane en se disant que c'est là qu'on aurait le plus de chances d'avoir des nouvelles. On ne savait plus quoi faire. On a fini par signaler votre disparition. » Et un peu plus tard, on a eu la visite de deux policiers qui venaient nous annoncer que suite à un naufrage, vous aviez été repêchés et que vous étiez tous les deux à l'hôpital. On est allé vous voir, mais hier vous n'avez fait que dormir. On a vu Henriette qui accourait aux nouvelles et hier soir, quand on est repassé, des parents étaient arrivés. On leur a proposé de venir dormir avec nous chez Stéphane, mais ils ont préféré l'hôtel. Vous avez vu Stéphane ? « Oui, nous en venons. Il est à 3 chambres plus loin, à peu près dans le même état que toi. Il s'est réveillé un peu hier soir et il a raconté à ton père comment le gros yacht italien vous a foncé dessus et a écrasé votre canot. C'est complètement fou, cette histoire !» Amélie et Ursula me quittèrent en me promettant de repasser le soir même. Un peu plus tard, vers 12h30, ce fut Henriette qui vint me faire une petite visite. « C'est complètement dingue ce qui vous est arrivé. Amélie m'a téléphoné pour me raconter. Mais attends la meilleure, c'est qu'on ne sait pas où est passé Jean-Claude Martin. Les filles l'ont vu revenir avec son bateau et prendre sa voiture. Il a dû venir la garer sur le parking de la boîte où elle est toujours. Mais lui, personne ne l'a revu. Et pour tout arranger, la comptable aussi a disparu. Imagine le bazar au boulot. Je dois tout faire, prendre les décisions urgentes et je n'ai même pas la signature. » « Je ne sais pas comment on va s'en sortir. »« Tu as essayé d'appeler chez lui ?»« Bien sûr, j'ai essayé sur son portable aussi, mais rien, aucune réponse. »« Et Yvette, je ne l'ai pas encore vue. »« Personne n'a vu Yvette depuis votre accident. »« Encore une qui a disparu et ne répond plus au téléphone. »« Alors ça, c'est vraiment curieux. Tu es allé voir chez elle ?» « Non, désolée, je n'ai vraiment pas eu le temps. » »« Alors là, je n'y comprends plus rien. Que ton patron se soit enfui après son altercation avec les Italiens et notre tentative d'assassinat, ça peut se comprendre. Mais la comptable et Yvette Monnier, je ne vois pas le rapport. J'espère que je vais vite sortir de ce lit et de cet hôpital. J'ai hâte de revoir Stéphane et de comprendre ce qui s'est passé. » Dans l'après-midi, on m'amena une jeune voisine qui venait d'être opérée. Mais elle dormait profondément et je n'eus pas l'occasion de faire sa connaissance. En fin de journée, juste après une nouvelle visite de mes merveilleuses amies Amélie et Ursula, j'appris par une infirmière qu'il était question que je sorte le lendemain. Elle me permit de me lever et, sous sa surveillance, je pus aller aux toilettes et prendre une douche. Vers 21h, le grand calme de la nuit se fit enfin dans les couloirs. Depuis que j'avais pu me lever pour ma toilette, je préparais dans ma tête une expédition qui me tenait particulièrement à cœur. Le moment était venu de la réaliser. Je vérifiai que ma voisine dormait toujours, je me redressai et m'assis sur le bord de mon lit. J'attrapai ma robe de chambre que maman avait eu la délicatesse de m'apporter et je l'enfilai pour ne pas prendre froid. Je me mis debout. Je n'étais pas encore très forte sur mes jambes, mais je pensais que ça devrait aller. J'entr'ouvris la porte de ma chambre et jetai un coup d'œil dans le couloir. Il était brillamment éclairé, mais désert. Ouvrant la porte en grand, je sortis et partis sur la droite. Je comptai trois portes et entrai dans une chambre éclairée d'une simple veilleuse. À pas de loup, je m'approchai des deux lits quand la voix d'une vieille femme m'apostropha. « Mademoiselle, s'il vous plaît, pouvez-vous me relever mon oreiller ?» Je compris que ce n'était pas la bonne chambre. Si une femme dormait là, il ne pouvait y avoir un homme dans le lit d'à côté. Je m'apprêtais à faire demi-tour quand la voix répéta. « Mademoiselle, s'il vous plaît !» Alors je m'approchai du lit de la vieille femme et lui remontai son oreiller. « Voilà, vous êtes mieux comme ça ?»« Oh, merci, oui, ça va mieux !» Je fis demi-tour, sortis de la chambre en vérifiant auparavant que le couloir était toujours désert. Je partis sur la gauche cette fois. Je comptai trois portes et vérifiai que j'étais bien en face de ma chambre. J'eus la tentation de rentrer me coucher, car mes jambes faiblissaient, mais il ne me restait qu'un petit effort à faire, et je continuai. Je comptai encore trois portes et entrai dans une nouvelle chambre. Comme la première, elle n'était éclairée que par une petite veilleuse. Une nouvelle fois, j'entrai à pas de loup, prête à faire demi-tour en cas d'erreur. Une nouvelle fois, je fus interpellé, mais par une voix d'homme cette fois, un peu cassée, mais surtout un peu canaille. « Bonsoir, mademoiselle. Si vous cherchez un lit pour dormir, je peux vous faire une place dans le mien. Approchez-vous, n'hésitez pas. »« Non, répondis-je, je cherche un jeune homme qui s'appelle Stéphane. » « En voilà un qui a bien de la chance, » reprit la même voix grailleuse. « Eh bien, je crois que votre Stéphane est en train de dormir dans le lit, là, juste devant vous. » Je m'approchai du lit en question et, cherchant à deviner le visage dans la demi-obscurité, je murmurai « Stéphane ! Stéphane ! » « Hein ?» fit une voix que je reconnus immédiatement. « C'est moi, Emmanuel !» « Oh, Emmanuel, viens vite, embrasse-moi !» Je ne me fis pas prier plus longtemps, je me jetai sur lui et nous nous étreignîmes longuement. Nous nous embrassâmes à en perdre le souffle. Enfin, je m'assis sur son lit et nous échangeâmes à voix basse quelques confidences. Sur le lit d'à côté, le papy qui m'avait répondu en entrant nous regardait de ses gros yeux attendris. Finalement, Stéphane me dit « « Ce serait peut-être sage que tu retournes te coucher. Si on veut sortir demain, il faudra être en forme. » Je lui répondis, « C'est que je n'ai plus bien la force. Je préférerais dormir là contre toi. » J'espérais un acquiescement de Stéphane, mais c'est du lit voisin que vint la réponse. « Ah ben ça alors, c'est bien ça les jeunes. Elle a le sang chaud cette petite. Vous avez bien raison, restez ensemble, profitez de la vie. » Considérant cette réponse qui m'arrangeait comme valable, je quittai ma robe de chambre, relevai le drap et vins me serrer contre Stéphane qui me fit une petite place. Je posai ma tête sur sa poitrine et m'endormis presque instantanément. Ce sont les cris de l'infirmière du matin qui m'éveillèrent. « Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Où vous croyez-vous tous les deux ?» Nous n'eûmes pas besoin de répondre, notre voisin s'en chargea. « N'ayez aucune crainte, madame. Je les ai surveillés toute la nuit. Ils ont été très sages. Ils ont gentiment dormi l'un contre l'autre, sans faire ce que vous imaginez. Mais c'est de votre faute aussi. Pourquoi séparez-vous les amoureux ? Ces deux-là, ce sont les deux naufragés de Porquerolles. Ils ont failli mourir ensemble, ils se sont sauvés ensemble. Forcément, ils ont besoin d'être ensemble. » « Bon, d'accord, » répondit l'infirmière, que ces indications semblèrent émouvoir. « Je veux bien fermer les yeux pour cette fois. Mademoiselle, filez vite dans votre chambre avant que la chef arrive, sinon ça va encore faire du pétard. » Je me levai, posai passionnément mes lèvres sur celles de Stéphane, en lui glissant à l'oreille. « À tout à l'heure !» En arrivant en face de l'infirmière, le cœur encore débordant d'amour, je ne pus m'empêcher de lui faire la bise en lui disant « Merci de nous comprendre. » « Oh, moi je vous comprends volontiers, mais la chef c'est une vieille fille du genre coincé, alors !» J'allais sortir quand je remarquai les bons gros yeux du vieux qui avait veillé sur notre sommeil toute la nuit. En deux enjambées, je fus vers lui et l'embrassai sur ses pauvres joues creuses. « Merci d'avoir pris notre défense. »
Enfin, je sortis dans le couloir et l'infirmière me prit le bras pour me raccompagner dans ma chambre. Je trouvais son aide inutile car j'avais retrouvé des forces depuis la veille au soir quand j'entendis une voix glaciale derrière nous.
« Madame Gralin, que faites-vous avec cette patiente dans le couloir à cette heure ?»«
Et voilà la chef !» murmura l'infirmière à mon intention. Puis, à haute voix, « Elle s'est plainte de fourmis dans les jambes et elle a voulu faire quelques pas. J'ai jugé préférable de l'accompagner. »«
Pour qui vous prenez-vous, Madame Gralin ? Vous n'êtes pas là pour juger, mais pour appliquer les consignes. Et la consigne est qu'aucun patient ne sort de sa chambre avant le passage des médecins. » « Depuis le temps, vous devriez le savoir. Accompagnez immédiatement cette jeune fille dans sa chambre. »
Henriette, Amélie et Ursula, papa et maman, vinrent me rendre visite durant la journée. Papa m'expliqua que, suite au courrier que je lui avais envoyé contenant les photos du cachot chez Jean-Claude Martin, il avait contacté ses collègues de hier qui étaient venus perquisitionner la maison. Ils avaient relevé des empreintes et quelques cheveux qui appartenaient probablement à Antoine Monnier. Cette visite s'était passée au moment même où Jean-Claude Martin allait à son rendez-vous en mer avec les Italiens. La maison avait été mise sous surveillance. Mais Jean-Claude Martin était sur ses gardes depuis notre visite avec Ursula. En rentrant, il avait dû repérer les policiers en planque autour de chez lui et ne s'était pas arrêté. Il avait dû rouler jusqu'à son bureau et avait laissé sa voiture sur son emplacement habituel chez Martin et Monnier. À partir de là, on avait perdu sa trace. Ce fut en fin d'après-midi que l'autorisation de sortie nous fut enfin accordée. Ne sachant comment contacter mes parents, je réussis à joindre Henriette par téléphone à son bureau. Elle se déclara ravie de venir nous chercher pour nous ramener chez Stéphane. Quand tous les papiers furent enfin en règle, nous montâmes dans sa voiture. Je lui demandai « Ça t'ennuie si nous faisons un petit crochet, je voudrais bien passer chez Yvette, comprendre pourquoi elle ne donne plus signe de vie. » Ce n'est pas très prudent d'aller faire des visites en sortant de l'hôpital. Tes parents ne me féliciteront peut-être pas. Mais Henriette commençait à me connaître et elle savait combien il était difficile de me faire renoncer à ce que j'ai décidé de faire. Elle prit directement la direction de la villa d'Yvette. Je sonnai à l'interphone devant la grille. Aucune réponse ne vint. Pourtant, il me semblait avoir vu bouger derrière la porte-fenêtre de la villa. Aucune voiture n'était visible, mais nous savions que la place ne manquait pas dans les garages. Nous attendîmes quelques minutes. Je sonnai de nouveau sans plus de succès. Henriette insista pour que nous ne traînions pas davantage dehors, alors que nous étions censés rentrer directement nous reposer à la maison. En remontant dans la voiture, je confiais aux autres cette impression que j'avais ressentie après avoir sonné la première fois. J'avais cru apercevoir une présence. Henriette et Stéphane confirmèrent avoir eu la même impression. « Alors, dis-je, c'est qu'elle est là. » Et au lieu de refermer la portière, je descendis de voiture et retournai vers la grille pour sonner de nouveau. Stéphane me suivit, mais Henriette pesta, nous trouvant vraiment pas raisonnable. Nos derniers coups de sonnette restant sans réponse, Stéphane déclara « Il faut qu'on soit sûr. Allez, on passe par-dessus. » Joignant le geste à la parole, il escalada le portail, qui heureusement n'était pas très haut, et je le suivis.